L'évangile de Marc, chapitre 1, les versets 21 à 28. Au nom de Jésus, l'homme tourmenté par un esprit mauvais. Jésus et ses disciples se rendirent à la ville de Capernaum. Au jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Les gens qui l'entendaient étaient très étonnés de sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme les maîtres de la loi, mais il les enseignait avec autorité. Juste à ce moment, un homme tourmenté par un esprit mauvais apparut dans la synagogue. Il cria : « Que veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais bien que tu es le Saint envoyé de Dieu. » Jésus parla sévèrement à l'esprit et lui donna cet ordre : « Tais-toi et sors de cet homme !» L'esprit mauvais secoua rudement l'homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Les gens furent tous si étonnés qu'ils se demandèrent les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela ? » Un nouvel enseignement donné avec autorité. Cet homme commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Et rapidement, qu'on l'entendit parler de Jésus dans toute la région de la Galilée. Amen. Je n'ai jamais mis les pieds dans une synagogue, mais à ce que je sais, c'est un lieu de culte, un lieu d'enseignement de la loi, la Torah, un lieu de prière, mais aussi un lieu d'hébergement. Et même un lieu de tribunal à l'époque de Jésus, bien sûr, mais pas les synagogues d'aujourd'hui. Les femmes étaient séparées des hommes dans la synagogue pour dire que même si ce n'était pas le temple qui était réputé sacré, la synagogue n'en est pas la moindre. Pourtant, il y a une chose qui est frappante dans cette histoire, la présence d'un homme dans la synagogue qui avait un esprit impur, c'est-à-dire habité par le diable, un démoniaque, disons les choses telles qu'elles sont. Ma question est la suivante, mais que fait ce monsieur dans ce genre d'endroit? C'est un lieu sacré. Avait-il sa place dans cette synagogue? Et là, même l'adjectif utilisé par l'auteur pour décrire l'individu, un homme qui avait un esprit impur. C'est voulu, c'est fait exprès de choisir ce mot impur, parce qu'on contraste avec la synagogue qui est sacrée. Et cet adjectif veut tout dire avec l'arrière-plan, le lieu du culte qui est un lieu saint. Moi, je ne me focalise pas sur la guérison. Il se peut que quand on prêche là-dessus, tout de suite on va sur l'enseignement de la guérison et le miracle proprement dit. C'est vrai que Jésus a fait le miracle. Mais pour moi, c'est surtout la symbolique qui m'intéresse aujourd'hui. Dans une synagogue, Jésus est venu pour faire quoi au départ? Pour enseigner, non pas pour faire cela, pour enseigner la parole de Dieu. Mais il y avait là une personne qui a été sous le joug du mal pendant des années, mais que personne ne le savait. Vous imaginez? Donc quelqu'un qui avait l'habitude de venir au temple, de venir au synagogue, mais personne ne l'a su que ce frère-là qui était à côté de lui, c'est quelqu'un qui est tourmenté, quelqu'un qui est habité par un mauvais esprit. Personne n'a pu soupçonner quelque chose. Une synagogue, c'est une communauté. Comme nous qui formons une communauté. Et nous aussi, nous croyons que nous connaissons tout le monde dans notre communauté. Oui, peut-être nous connaissons son origine, d'où il vient, comment il s'appelle, quel est son travail. Mais chacun a quelque chose qui a besoin d'être délié en lui. Et ça, on ne le connaît pas. C'est un peu comme l'iceberg. Et ce jour où Jésus est venu dans cette synagogue, c'était un jour imprévu, mais une grande délivrance pour cette personne qui était présente a pu se faire. Une question aussi que je vous pose à vous. Quand vous venez à un culte, peu importe le lieu, que ce soit ici ou ailleurs, est-ce que vous vous sentez libéré de quelque chose après avoir entendu la parole de Dieu? Ou est-ce le contraire? C'était le reproche que Jésus avait fait contre les pharisiens. Quel malheur pour vous aussi, spécialistes de la loi, vous chargez les gens de charges difficiles à porter et vous n'y touchez pas vous-même d'un doigt. Luc chapitre 11, verset 46. Alors ce que je vous dis ce matin, soyez vigilants quand vous entendez un enseignement ou une prédication quelconque. Et qu'après avoir entendu cet enseignement, que cela ne devienne pas un fardeau. Vous êtes venu au culte avec un poids qui vous a asservi depuis longtemps et vous repartez encore avec une autre charge supplémentaire. Ce n'est pas normal. Et c'est ce que Paul avait fait. Il a mis en garde la communauté de Galates, de Corinthe, pardon, dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 22 et 23. En effet, l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Vous avez été racheté à un prix, ne devenez pas esclave des humains. Paul était toujours en conflit avec des responsables juifs qui voulaient imposer des choses en plus, ce qui est écrit dans la Bible, dans la loi, pardon. Par exemple, la circoncision, il faut que vous soyez circoncis, sinon vous ne ferez pas partie du peuple de Dieu. Et il était vraiment dans cette lutte perpétuelle. Et dans le texte, les enseignements des pharisiens et des scribes n'ont rien contribué à la vie de cet homme qui souffrait du joug d'un mauvais esprit, qui le faisait tourmenter, comme dit le texte ici. Mais quand il a entendu l'enseignement de Jésus, il a été libéré. Regardez le verset 27. Les gens furent tous si étonnés qu'ils se demandent les uns aux autres, « Mais qu'est-ce cela ? Un nouvel enseignement donné avec autorité. Cet homme commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. » Regardez la façon dont Marc écrit son évangile. C'est comme s'il voulait mettre en exergue que c'est l'enseignement de Jésus et sa parole qui guérit les personnes de leurs démons. Et là, je mets entre parenthèses leurs démons avec S, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Nous avons nos propres démons qui nous hantent aussi dans nos vies. Avant de venir ici au culte, je viens de recevoir un SMS d'une sœur en Christ à Montpellier. Priez pour moi, pasteur, parce que je vais tomber dans la dépression. J'ai des choses qui me hantent chaque fois. L'angoisse perpétuelle. Un peu comme Saül, rappelez-vous, le roi Saül qui a été tourmenté. Les textes disaient qu'ils avaient un mauvais esprit en lui. C'est ce qui est écrit dans le texte. Mais on ne sait pas réellement ce qui en est. Mais en tout cas, lorsque David venait jouer un morceau de musique, il est devenu calme. Donc on pourrait dire qu'il était un peu dans la dépression. Mais ici, ce n'est pas de la dépression. Dans notre texte, soyons clairs, la façon dont Jésus le réprimandait, il ne parlait pas à la personne qui souffrait, il s'adressait carrément à qui? À l'esprit impur, parce qu'il l'avait reconnu. Regardez le verset 24. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous détruire, nous ?» Mais pas je. Je sais bien que tu es le saint envoyé de Dieu. Le diable existe, chers frères et sœurs en Christ. Même si ça fait peur, même si on n'aime pas entendre cela. Une fois, j'étais en discussion avec un pasteur protestant qui dit, moi, je ne crois pas à ça. Il dit, qu'est-ce que tu lis dans les textes? Là, c'est clair et net. C'est pas moi qui l'ai inventé. Jésus s'adresse à l'esprit impur et qui dit « nous ». Donc c'est notre figure. Soyons clairs, il ne faut pas faire une interprétation tendancieuse pour ceux qui ne croient pas à l'existence de cet être maléfique. C'est vrai que ce n'est pas si grave de croire en cela ou pas. Le salut ne repose pas là-dessus, bien sûr. Mais qu'on le veuille ou non, l'esprit du mal peut agir sur quelqu'un, peut agir sur le monde, peut agir sur le système. Le mal peut agir sur le monde. N'est-ce pas la même chose avec ce qui s'est passé avec Pierre? Lorsqu'il l'avait rabroué, le Seigneur, en refusant catégoriquement l'annonce de Jésus qu'il sera mis à mort par les prêtres et les scribes. Voici ce que Jésus a dit à l'esprit impur et non à Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan !» Or, il s'adressait à Pierre. Même Pierre pourrait être influencé par le mal. Pierre, qui est le pilier de l'Église, tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. Matthieu 16, 23. Sans le savoir, Pierre était sous l'influence du mal. Moi, toi, nous pouvons être sous l'influence du mal si nous ne sommes pas vigilants. Ne sous-estimez jamais la force de cet esprit. Ne vous dites pas que je suis un enfant de Dieu, donc je suis épargné. Faites attention. Comme disait un pasteur, un ancien, il ne prend jamais de congé, le diable. Il ne prend jamais de repos. Et voici ce qu'il m'avait dit. Rappelle-toi, petit, avant que tu sois né, il était déjà là. Et si vous regardez l'histoire de la Genèse, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, il était déjà là, avant eux. Donc il est plus expérimenté que toi et moi. Il sait toutes les ficelles pour te piéger, pour t'avoir dans ses filets. Donc, mets-toi toujours sous l'abri de ton Seigneur. Tu ne fais pas le poids contre lui. Donc, ne nous leurrons pas, tout le monde peut se retrouver dans la même situation que Pierre, que Saül et d'autres encore. Pourquoi? Parce qu'en effet, comme dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. » Il se peut que nous soyons un peu abattus quand les personnes que nous partageons l'Évangile ne réagissent pas ou fait une réaction de rejet. Ne nous emportons pas contre eux, même si parfois ils nous balancent des remarques blessantes. Je me rappelle bien vendredi, Lionel était là, au Jack, il y avait eu un jeune qui a dit, quand la personne ne réagit pas, quand on essaie de témoigner, parfois j'ai envie de le taper dessus. Ça nous a fait rigoler, mais c'est notre impression aussi. Parfois on veut, allez, crois en Jésus, vite. Surtout quand la personne essaie de nous déstabiliser avec des propos blessants. Ne nous emportons pas contre eux. À vrai dire, c'est un peu comme à l'image de Pierre tout à l'heure, ce n'est pas juste une histoire de conviction ou une confrontation des idées. Nous entrons dans une dimension de spiritualité qui nous dépasse. Parfois, c'est le mal qui est à l'œuvre et qui bloque le cœur des gens à ne pas accepter l'Évangile. Rappelez-vous de l'histoire de Pharaon. Combien de fois que nous avons dit que ce n'est pas le discours du prédicateur qui change les cœurs, mais c'est l'Esprit Saint qui opère le changement du cœur. Et ça, j'insiste là-dessus. Il s'agit de changement de cœur. C'est plus profond. Ce n'est pas juste pour savoir qui a raison, qui a tort. Non! C'est le cœur qui doit changer. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui agit. Pourquoi lors de la liturgie, de la parole, nous faisons la prière d'illumination? Pourquoi on prend le temps de faire cette prière d'illumination avant la prédication, avant la lecture de la parole? Ce n'est pas parce que c'est le culte qui l'oblige pour faire une bonne prestation liturgique. Non. La préparation qui a été faite, la méditation ne serviront à rien si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'anime. quelle que soit l'intelligence du prédicateur, quel que soit le charisme même de l'officiant, ça ne sert à rien si l'Esprit de Dieu n'œuvre pas. Avez-vous remarqué tout le déroulement du culte, depuis l'accueil jusqu'à l'envoi et à la bénédiction? On compose la liturgie avec des paroles de la Bible. Une belle prière ou un beau chant ou une belle exhortation, c'est quelque chose qui est rationné des paroles de Dieu. Et ce qui me fait peur aujourd'hui, parfois, dans des cultes protestants, on commence à raboter la parole de Dieu et on les remplace par des citations des grands philosophes. Ce n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas ça qui change les cœurs. C'est la parole de Dieu qui change les cœurs. Ça a un pouvoir qui nous dépasse. C'est dans une dimension d'esprit, qu'on le veuille ou non. On peut utiliser les citations, mais ça ne remplace pas la parole de Dieu. C'est la parole qui nous libère, qui nous ouvre les yeux, qui oriente nos cœurs et nos réflexions. Les belles paroles et les belles citations des grands penseurs, des artistes, des hommes célèbres peuvent nous taper à l'œil, c'est bien, et nous émerveiller, mais pendant un certain temps, et on l'oublie. Mais seule la parole de Dieu qui reste, et d'ailleurs c'est pour cette raison que le Seigneur l'a comparée à une semence. C'est joli comme illustration. Pourquoi le Seigneur a choisi cette illustration? La parole de Dieu est comme une semence. Si vous regardez les semences, elles ont une mauvaise apparence. Sec, noir, mais toute la vie se trouve dedans. Tout petit, mais toute la vie se trouve dedans. Et la force de cette parole qui se déploie et qui donne des fruits est inimaginable au moment des récoltes. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne se montre pas dans des situations d'exaltation, mais il agit en silence, un peu comme la semence qui est dans la terre. Tu ne le vois pas, mais il œuvre et il change les cœurs. Et nous serons aussi étonnés comme les Juifs, en voyant l'œuvre de Dieu qui se réalisera, et nous dirons aussi, qu'est-ce donc cet enseignement nouveau? Et quelle autorité il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. Amen.